temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche.
De Radio Canu, la plus rebelle des radios, comme un mercredi sur deux, de 21h à 22h, en semaine paire du calendrier. C'est la bande-son de nos révoltes, musique radicale et propos engagés. La bande-son de nos révoltes, bah, c'est l'acte 20. Et pour cet acte 20, on a décidé de faire une émission un peu spéciale, puisque pour la première fois, on va avoir un invité avec nous. On a décidé de faire cette émission sous le signe du démon, sous le signe de Lucifer et sous le signe du métal. On décline d'habitude les propos engagés, la musique radicale à travers plutôt l'univers du punk rock, du hardcore, du rock alternatif, parfois du ska, du reggae. Et bien on a décidé de vous montrer que le métal aussi, le hard rock pouvait être engagé. Et pour ça on a avec nous le grand timonier Laurent de Noise Pollution, l'émission métal hard rock de Radio Canu. Salut Laurent.
Salut David, je suis bien content que tu m'aies invité.
Et bien on est bien content de te recevoir et puis de passer 7 heures et peut-être un peu plus ensemble, puisque Boulimix normalement faisons défaut ce soir, on va peut-être pouvoir avoir droit à quelques minutes bonus, parce qu'on sait que des fois les solos endiablés, voilà, et furieux du heavy metal font durer les morceaux plus longs que le 1, 2, 3, 4 du punk rock. En tout cas, tu vas avoir la dure tâche de nous expliquer ce soir que derrière les stéréotypes de musique pour saturer, pour classe moyenne, blanche, américaine ou pour adolescents boutonneux, et ben le heavy metal et le hard rock peut être aussi une musique engagée parfois.
Ouais, c'est quand même un super challenge, parce que c'est vraiment pas si gagné que ça, que ce soit une musique engagée. Alors, tu disais musique pour la classe moyenne, ça c'est vrai aujourd'hui. Le heavy metal, la première vague, et surtout la deuxième vague, celle qui est née en 79, on va dire, à la New Wave of British Heavy Metal, c'est pas du tout la classe moyenne, hein, c'est que des prols.
C'est la working class anglaise.
Voilà, c'est ça, typique anti-Thatcher, donc Iron Maiden, Saxon, tous ces gens-là. Mais ils vont pas porter de discours politique quand même. En fait, ils ont juste que le système les dégoûte, et ils ont juste envie de s'éclater, de faire de la musique. Et du coup, il n'y a pas de discours politique. Et c'est la majorité des groupes de hard rock ou de metal, c'est ça. En fait, leur opposition au système, c'est juste que de dire on s'en fout du système, nous on fait autre chose, on s'amuse, on s'éclate, on boit des coups et voilà, on fait de la musique. Du coup, c'était pas facile de trouver des morceaux avec des groupes vraiment engagés. En fait, le groupe le plus engagé, je pense, qui existe dans la sphère metal, c'est Napalm Death. Donc groupe de greencore ou limite death metal des fois, donc groupe super difficile à écouter, mais c'est un groupe qui est classé à l'extrême gauche depuis le début, qui a jamais varié, et voilà, c'est le groupe le plus, je pense, engagé, proche de ce que tu peux passer d'habitude.
Et d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, je me rappelle plus, mais il y a 2-3 ans, Napalm Death est venu jouer à Lyon au CCO à l'initiative du collectif de l'Antifa Fest pour un concert en soutien aux migrants.
Voilà, et puis si vous avez jamais vu Napalm Death, quand vous voyez sur scène, ils ont toujours un discours, voilà, anti-nazi, alors ça c'est très traditionnel chez Napalm Death, ce qui nous fait plaisir. Et voilà, plein d'autres choses. Mais bon, alors, j'ai pas amené de Napalm Death parce que je suis pas fan du tout, j'ai amené plein d'autres choses.
Et alors, vas-y.
Non, alors, du coup, on va commencer par un groupe qu'on adore tous les deux, donc ça va être.
Alors, juste avant, peut-être quand même deux mots sur Noise Pollution, parce que l'idée c'est aussi de donner envie aux auditeurs de la bande-son de No Revolt d'aller prolonger le vendredi soir avec Noise Pollution.
Voilà, donc Noise Pollution, c'est le vendredi à 20h, ça dure 2h à peu près, 2h15. Et on passe du métal. Alors, très tourné autour de l'actualité, donc on suit vraiment ce qui se passe, puisque c'est une musique qui n'est pas morte encore, il y en a des musiques qui s'éteignent un petit peu, le métal pas du tout, du coup on a une espèce de d'effervescence, et donc on témoigne un petit peu de ça le vendredi soir.
Tous les vendredis soirs.
Ouais.
Alors, on l'a dit, on va passer une heure ensemble, un peu plus d'une heure, tu vas nous présenter différents groupes, et puis tu vas nous montrer pourquoi tu as choisi ces groupes-là, et en quoi ils sont le sens de l'engagement. On a des bières avec nous,
ça, c'est
indispensable,
important
quand on écoute du heavy metal et du hard rock. On va monter le son et puis on va commencer tout de suite par le seul groupe de hard rock que j'ai déjà passé dans la bande son No Revolt.
Je m'y attendais, hein, j'avais regardé, je le savais.
Et de nombreuses fois, je crois qu'on a passé 4 ou 5 fois leur morceau, qui est peut-être le groupe de hard rock le plus engagé qu'on connaisse, ou un des plus engagés, et qui est aussi le plus grand groupe de hard rock français.
Ouais, mais alors en fait, quand on regarde la scène française, c'est très particulière, parce qu'en fait, on a une tradition de chansons engagées qui est née au 18e, au 17e, et puis qui a continué au 19e, au 20e, avec on a des chanteurs qui sont devenus des stars en ayant de la chanson engagée. Il y a peu de pays qui ont un Brassens ou même un Renaud qui peut chanter Société, tu m'auras pas, quoi. Et donc, forcément, dans les groupes de hard rock français, notamment à partir des années 80, le côté contestataire était très présent. Là, on va parler de Trost, mais il y a aussi Killers, qui a eu pas mal de morceaux un peu politiques. Dans les groupes modernes, ça a toujours continué. Gojira, aujourd'hui, qui est le groupe de métal certainement un des plus connus dans le monde, a un discours très écolo. Enfin, voilà, c'est une tradition bien de notre culture, en fait, hein. Du coup c'est passé dans le hard rock et dans le métal. Donc Trost, il a fallu choisir un morceau. Alors c'est très compliqué, parce que les trois quarts des morceaux des quatre premiers disques, on va dire, sont incroyables et portent un discours politique. Je me suis dit qu'il fallait commencer par le premier disque, parce que le premier disque de Trost, c'est un truc brut de décoffrage. Il y a quelques relents punk, hein, d'ailleurs, dans Trost au tout début, on sait pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'en fait ils écoutent pas vraiment du punk, mais...
Ouais, Bernie revenait de Londres, il était marqué quand même par ce mouvement-là, il avait les cheveux courts, il s'était mis une épingle à nourrice,
ouais.
Il aimait bien comment Johnny Rotten braillait, il y avait un petit peu de ça. Alors ce morceau, on l'a déjà passé, on l'a passé le 1er mai dernier, parce qu'on a fait une émission sur le travail, justement, et donc inévitablement, on a passé ce bosser 8 heures.
Allez.
Hein, et puis c'est en lien avec les mobilisations sociales actuelles.
Ouais, et puis du coup dans l'écriture des paroles de Bernie, c'est ironique, cynique, tout ce qu'on veut, ça dénonce. C'est pas là pour des fois il a un discours brut de décoffrage. Là c'est il y a une espèce de prise de distance sur l'exploitation. Allez va bosser.
Trust, on a passé déjà bossé 8 heures. On a passé à l'occasion d'un livre de la quinzaine sur la fin de l'homme rouge, les brutes, bien évidemment.
Ah bah ouais.
On a passé antisocial lorsqu'on a parlé des luttes d'hier et d'aujourd'hui, d'une chanson qu'on entend traditionnellement dans les camions CGT au cours des manifestations. Et puis on a passé police milice lors de notre émission sur les violences policières. Et puis on a passé aussi extrait de leur dernier album. Debout les libertaires, l'archange.
L'avant-dernier album.
Ni Dieu ni maître. L'avant-dernier, il y en a un autre depuis qui est sorti. D'accord.
Ouais.
Alors, dans l'indifférence totale, alors que cet avant-dernier album n'était pas si mal.
Ouais,
moi, ce que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'en tout cas, en vinyle, il est sorti en double album. Et que plutôt que faire un double album, ils auraient fait une sélection des meilleurs titres. Ils auraient pu faire un très bon album avec 8 titres, alors qu'il y a quand même quelques titres dessus qui sont loin d'être indispensables et que le meilleur côtoie finalement des choses qui sont bien moins indispensables. Mais en tout cas, pour les avoir vus ensemble sur cette tournée, dans des grandes salles ou dans des petites salles, c'était une belle tournée de reformation, encore une fois, de Trust. Nanar, es-tu là ? C'est avec eux qu'on commence cette émission. On balance Trust, bosser 8 heures, et puis comme ça, on va pouvoir s'ouvrir les bières pendant ce premier morceau. Trust pour lancer cette 20e édition, cet acte 20, la bande-son de No Revolt, consacrée donc au heavy metal et au hard rock engagé.
Ton salaire, c'est le salaire de la sueur. Le syndicat risonne de bosser 8 heures. Ton salaire, c'est le salaire de la peur. Quand tes yeux autour de toi, le syndicat se moque de toi. Regarde ces guillemots qui nassent. Ils n'arrivent pas à la godasse. Les autres ne sont pas sérieux. C'est à celui qui te pèsera le mieux. Le patronat, je t'en parle même pas. Il n'est bon que pour les coups bas. Ça n'est raison de bosser 8 heures. Tu verras tout n'est que politique.
pas joie mon vieux, ils l'ont roulé. Pour eux ce n'est qu'un futur retraité. Il est venu le temps des primeurs. Mais Ségui chante dans le cœur. L'institution n'a plus de valeur. Pratique l'inceste avec ta sœur. T'as bien raison, tu bosses 8 heures. Ton salaire c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison, tu bosses 8 heures. Ton salaire c'est le salaire de la peur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire c'est le salaire de la peur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire c'est le salaire de la peur.
T'as bien raison de bosser 8 heures, donc chanter Trust de façon ironique. Inévitablement, Trust, pour commencer cette émission, cet acte 20 de la bande-son de No Revolt, consacré au métal et au hard rock engagé. Bien sûr, ça tombait sous le sens.
Même si Trust a eu beaucoup d'incohérences dans sa carrière. On se rappelle d'un morceau contre le vote. C'est pas un anarchiste, Bernie, mais des fois il n'en est pas loin. La grande illusion que j'adore.
Sur leur troisième album, ouais, sublime.
Sur Marche ou Crève. Et puis on se rappelle de tournée où il appelait à voter, quoi. Enfin bon, c'était atroce. Il y a des petites incohérences des fois. Alors du coup, je vais essayer de remonter loin dans le temps avec le morceau suivant. Ça n'a pas été facile de trouver un morceau un peu de la première vague, donc la vague anglaise née avec Led Zeppelin, Black Sabbath, tous ces groupes-là, avec des morceaux engagés. Et j'ai trouvé, et j'avais jamais fait attention en fait, que le War Pigs, certainement un des morceaux les plus connus de Black Sabbath, est un morceau politiquement engagé. Alors, il est souvent classé et souvent mis en référence à un morceau contre la guerre du Vietnam. Hein, il sort en 1970, on est en plein dans ces mouvements-là. En fait, c'est pas sûr que ce soit contre la guerre du Vietnam. Le batteur Geezer Butler, sur une interview, il a à la BBC en 70, il dit oui, on a fait un morceau contre le Vietnam, etc. Et quelques temps après, Ozzy, le chanteur, est interviewé, il dit alors non, pas tout à fait, parce que moi j'y connais rien dans le Vietnam. Donc on rappelle, ils sont anglais. Hein. Il était pas vraiment dedans. Il a dit non, j'ai fait juste une chanson contre la guerre. Ce qui est aussi intéressant, ceci dit. Donc voilà, c'est l'histoire de ce War Pigs sur l'album Paranoid de Black Sabbath. Bon, un album culte, hein, c'est l'album référence. Ils ont inventé le heavy metal, le terme et la musique, Black Sabbath. Et c'était il y a 50 ans, en fait, hein, puisque cet album est sorti en 1970. Et donc il y a 50 ans, le heavy metal était inventé par Black Sabbath. Donc on va écouter ce morceau War Pigs, un morceau contre la guerre. C'est un des thèmes qui dans le métal qui traîne en fait, dans les morceaux engagés, c'est d'être contre la guerre. Ouais. Il y a des trucs où il n'y a pas de morceau engagé contre certains sujets, mais alors celui-là il est quand même relativement présent.
Ouais, on y reviendra peut-être, j'ai aussi un autre morceau dans ma besace contre la guerre qu'on écoutera peut-être en bonus si on a le temps à la fin. Juste pour rappeler quand même, on terminera cette émission par un petit blind test, un morceau, le seul morceau que tu n'auras pas sélectionné.
Il va me piéger.
Faudra que tu reconnaisses, qui nous ramènera dans les années 80, une forme d'engagement du hard rock. Et puis faudra que tu reconnaisses notamment qui tu entends et pour quel est l'engagement de ce morceau.
Ça va être chaud.
On verra ça tout à l'heure. Et puis quand même, c'est pas parce qu'on fait une émission spéciale qu'on va pas retrouver nos rubriques habituelles, puisque tu as aussi fait l'effort de nous présenter un livre de la quinzaine.
Ouais, un double livre en fait,
un
en deux tomes.
Bouquin, mais, ouais. Voilà, ouais. Que j'ai hâte de découvrir, même si le groupe que j'aperçois est peut-être le groupe culte qu'on a passé lors de la première émission et le premier morceau passé sur cette antenne et qui n'est pas très un groupe de hard rock, mais on en reparlera tout à l'heure.
Un petit groupe anglais, un petit groupe
de 77. On en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, on retrouvera notre rubrique, le livre de la quinzaine, comme d'habitude dans cette émission. En attendant, donc, Black Sabbath avec leur War Pigs.
gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. War pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Quand on vous disait que les métalleux, ils aimaient pas bien tripoter le manche de leur guitare, c'est quand même une marque du genre.
Ouais.
En tout cas, c'était Black Sabbath avec War Pigs, un morceau contre la guerre sur 102.2 de Radio Canu.
Et alors du coup, en cherchant un petit peu les groupes qui étaient vraiment très politisés, il y en a un particulier qui existe encore aujourd'hui, qui s'est reformé il y a quelques semaines là, qui est certainement le groupe de métal au sens large, on va voir pourquoi c'est au sens large, qui est le plus politisé, puisqu'on va parler de Rage Against the Machine. Alors Rage Against the Machine, ils sont nés au début des années 90 de cette vague de fusion qui existait au sein du métal et qui existait au sein du rock, où on se mettait à mélanger. Alors ça existait un peu avant, mais c'était vraiment le gros moment là, entre 88 on va dire et 92-93, mélanger le rock, le métal avec du funk, avec d'autres choses quoi.
On se rappelle des Fishbone, on se rappelle des Red Hot Chili Peppers, et c'est vrai qu'ils étaient à mi-chemin avec la scène parfois punk, hardcore, funk, rock.
Il y avait un peu tout ça. D'ailleurs, le guitariste de Rage Against the Machine, Tom Morello, est issu d'un groupe qui faisait un pur mélange de hard rock et du funk.
Ouais, on se rappelle de Faith No More aussi, qui a erré dans ces zones-là aussi sur leur premier album. Mmh.
On va quitter toujours un peu quand même. Et voilà. Et alors, Rage Against the Machine, c'est l'ambiguïté de la problématique du métal. C'est que le groupe se forme tout de suite, en quelques semaines, ils enregistrent un album, enfin ils composent, ils enregistrent, et tout de suite ils sont repérés, ils sont signés sur une major. Et tout de suite, au sein du groupe, il y a le discours. Mais attends, on fait quoi? C'est un groupe qui est politique, qui est contre le système, et ils vont sortir sur une major. Et au sein du groupe, il y a une bataille. Tom Morello, le guitariste, lui, il est plutôt pour signer sur une major en disant on se fera entendre notre discours à grande échelle, ce qui va être le cas, parce qu'ils vont vendre des millions d'albums. Et il y a le chanteur Zach de la Rocca qui lui dit moi je suis contre la compromission, etc. Et il y a ce discours. Alors ils vont splitter 15 fois, ils vont se reformer 16 fois, du coup, si on prend la nouvelle. Ben voilà, c'est compliqué au sein du métal, parce que le métal, quand ça marche, c'est signé par une grosse maison de disques.
Et ça peut potentiellement vendre des millions d'albums, qu'ils ont fait d'ailleurs dès leur premier album.
Voilà, et du coup, il y a de l'ambiguïté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a trahi? Est-ce qu'on n'a pas trahi? Ça va être Rage Against the Machine, on en est là. On se rappelle qu'en dehors de l'album mythique qu'on va écouter là, en 92, qui était le premier album et qui a cartonné vraiment, vraiment tout de suite, le groupe a continué après à sortir des disques. Il y a eu différentes formes. On a eu des concerts, notamment après l'élection de Trump, puisque le groupe a fait une tournée, a fait des dates contre l'élection de Trump. Donc ils se sont réengagés à ce moment-là. On a eu l'occasion d'avoir quelques dates. Et puis le guitariste avait remonté, enfin tous les musiciens sauf le chanteur avaient remonté un groupe qui s'appelait Prophet of Rage avec deux rappeurs, donc, dont un de Cypress Hill, parce que la particularité de Rage Against the Machine, c'est d'avoir un chant plutôt orienté rap, même si Zach de la Rocca, il a un rap pas très hip-hop classique, hein, il vient du hardcore en fait. Le groupe d'avant dans lequel il chantait, c'était plutôt hardcore, du coup on retrouve à la fois le phrasé rap et un peu l'agressivité du hardcore dans son chant. Donc voilà, et c'était inévitable de passer Rage Against the Machine.
Le choix du morceau, du coup.
Alors c'était compliqué, parce que tous les morceaux sont politiques et tous les morceaux sont bien sur ce premier disque. Ils ont fait des tubes avec pas mal de morceaux, mais il y en a un que j'aime bien. Il y a des morceaux, c'est des purs morceaux de contestation, avec fuck toutes les deux paroles. Enfin, c'est vraiment direct, brut de décoffrage. Il y en a un qui est un peu plus évolué que ça, c'est celui que je propose qui s'appelle Take the Power Back. C'était d'ailleurs beaucoup mis en avant sur le groupe Prophet of Rage là, quand ils avaient tourné il y a 2-3 ans. Et c'est vraiment un morceau qui parle de la démocratie, du fait que le pouvoir est volé par le système de la démocratie représentative. Il y a un gros discours là-dessus, même si c'est pas un groupe qu'on pourrait classer dans les anarchistes. C'est vraiment un groupe de gauche qui a toujours soutenu beaucoup de causes aux États-Unis, notamment contre les élections, chaque fois qu'il y a des candidats de droite ou plus, comme Trump. Donc voilà, c'est un...
Qui s'était engagé, je crois, aussi en soutien à Mumia Abou-Ramal, dans des Black Panthers emprisonnés.
Voilà, ils ont fait pas mal de choses et ils ont rarement été pris en défaut de vraies compromissions, à part le côté business du groupe, hein, où là, ils ont fait le choix d'être sur un gros label.
Hein. Eh ben, on retrouve Rage Against the Machine.
Take the Power Back.
Class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure was well kept. I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it. Yeah, we hang from it.
Rage Against the Machine dans cette émission La Bande Son de nos Révoltes consacrée au heavy et au hard rock engagé sur 102.2 de Radio Canu, et ben à 21h33 de la pendule de Radio Canu, à la mi-temps de cette émission, c'est le temps de retrouver notre rubrique du livre de la quinzaine. Alors Laurent, qu'as-tu choisi pour illustrer ce métal engagé comme livre de la quinzaine?
Ouais, alors j'ai choisi un livre qui est sorti en deux tomes en version française, je sais pas sur la version originale américaine, il est sorti aussi en deux tomes, ça s'appelle 33 révolutions par minute. Donc c'est un titre qui fait en lien avec les chansons engagées et le 33 tours, hein, tu as compris. C'est une histoire de la contestation, c'est sous-titré une histoire de la contestation en 33 chansons. Et en fait l'auteur, qui est un Américain, il prend 33 chansons qui pour lui sont symptomatiques des contest songs, comme ils disent les Américains. Alors, le premier tome, alors c'est par ordre chronologique. Du coup, le premier tome, alors c'est très anglo-saxon, hein, c'est un américain, donc c'est autour essentiellement des groupes américains et quelques groupes anglais, comme tu as dit. Bon, sur le deuxième volume, c'est les Clash, hein, qui sont en photo. Donc,
Donc voilà. La mythique photo du premier album des Clash qui illustre ce deuxième volume.
Et du coup, mais c'est super intéressant parce qu'on découvre. Alors il y a des morceaux très connus, le Billy Holiday là, Strange Fruit. Les Strange Fruit, c'est les fruits étranges, bizarres, qui pendaient des arbres. Et en fait, c'était les Noirs qui avaient été lynchés par
le Ku Klux Klan.
Voilà. Et donc, ils redécrivent toute cette première période des chansons contestataires qui étaient contestataires, mais indirectement, parce que sinon, elles se faisaient lyncher. La pauvre Billie Holiday, si elle faisait une vraie chanson en disant les connards racistes, ils ont pendu mes copains noirs, toi. Donc, voilà, c'était très imagé. Et donc, on balait comme ça les années 60, les années 70. Alors, il y a des morceaux très classiques sur la Give Peace a Chance, là, avec Yoko Ono et John Lennon. Voilà, ça parcourt un petit peu les différentes luttes très américaines, un peu sur l'Afrique aussi, puisqu'il y a fait la Kuti qui apparaît sur le premier tome. Et puis, le deuxième tome, on retrouve forcément Rage Against the Machine, même si ce deuxième tome s'ouvre avec les Clash. En 77, avec voilà, ils ont pris comme morceau le White Riot,
qui a été alors justement le premier morceau qu'on a passé lors de la première émission de la bande son de nos révoltes pour illustrer ce qu'on allait passer dans cette émission en écho aux émeutes de Brixton, aux émeutes jamaïcaines anglaises, et Joe Strummer appelait la classe ouvrière blanche anglaise elle aussi à faire une émeute blanche.
Voilà. Et du coup, dans ce livre, on trouve, il y a les Dead Kennedys, mais il y a d'autres chose dans les protest songs ou dans les chansons contestataires anglo-saxonnes et américaines. Par exemple, il y a un morceau de Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes, qui met en avant la lutte gay. Alors ça n'existe pas, hein, dans le milieu du métal, donc j'ai fait un gros effort. Il n'y a pas de groupe qui parle de ça réellement, qui se bat, en tout cas qui soit suffisamment connu pour que ça soit arrivé à mes oreilles. On sait que le chanteur du plus grand groupe du heavy metal des années 80, Judas Priest, est homosexuel, mais il ne l'a jamais dit. Enfin, maintenant on le sait, hein. Il y a eu quelques coming out célèbres. Il y a un groupe de death metal, la Cynic, où deux des trois membres ont fait leur coming out en même temps. Il y a le chanteur de Life of Agony, Cass Caputo, qui a changé de sexe, qui est devenu Mina Caputo, qui fait des concerts, c'est exceptionnellement bien en plus. Mais il n'en parle pas dans les morceaux, en fait, il le vit juste. Et là, c'est le vrai tabou du métal, je pense encore, l'homosexualité. Hein. C'est une musique un peu machiste au premier degré, et puis surtout au deuxième degré, en fait. Il y a de la moquerie, hein, quand même. Mais du coup, c'est un discours qui ne sort pas. Quoi,
hein. Parce qu'on en parlait hors antenne, même sans aller jusqu'à des morceaux dénonçant l'homophobie, des morceaux antisexistes, tout simplement.
Ça existe plus, mais c'est...
Ça existe plus, mais c'est pas courant.
Non.
Et bien souvent, si une des choses qu'on peut reprocher à la scène métal, et en tout cas, notamment pendant les années 80, ça a été souvent son image peu respectueuse de l'image des femmes, quoi. Hein, et les attitudes à travers la survalorisation des groupies mises en avant par wagon entier, que revendiquaient se taper les artistes à la fin de leur concert, les images de filles reproduisant les postures issues de la pornographie sur les images d'albums ou autres, ou les stéréotypes du masculin et du féminin de l'homme de Neandertal véhiculé par Manowar, par exemple.
Voilà, par exemple.
On en était dans la reproduction patriarcale, souvent très assumée.
Bon, ça a évolué, ça, hein. C'est plus le cas aujourd'hui. Quand c'est le cas, c'est souvent du second degré, d'ailleurs, hein. On a basculé, ou alors c'est dans la tradition, parce que la musique est puissante, et on voit, mais il n'y a pas de discours politique pro-mec, heureusement. Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est quand même rare. Donc voilà, ces deux livres, 33 évolutions par minute, font le tour un peu des chansons, des 33 chansons qui sont représentatives pour l'auteur. Et on apprend plein de choses, parce que ça balaye tous les styles. Il y a un morceau de U2 qui est analysé, U2 qui a été un groupe contestataire, hein. Enfin, on rappelle sur le...
Sur le Bloody Sunday.
Voilà, c'est ça, quoi. On se rend pas compte, parce que c'est un groupe de pop, mais, de pop rock, mais si, enfin, il y avait du discours. Il y a quelques artistes de rap qui apparaissent aussi. Enfin, voilà, je trouve très bien ces deux livres, parce que c'est pas forcément ce qu'on écoute. Là, moi, il y a 90% des artistes dedans que je connais, que j'ai entendu les morceaux, mais que j'écoute pas chez moi. Et du coup, ça permet de voir aussi une autre approche de la musique en rentrant sur le côté j'ai fait une chanson contre quelque chose. Voilà.
Et donc, 33 révolutions par minute, tu nous donnes l'édition, l'éditeur ?
C'est Rivage Rouge.
Rivage Rouge.
Je crois qu'il sort pas mal de morceaux, de livres sur la musique, en fait.
Donc facilement diffusé, facilement trouvable.
Voilà. Et l'écrivain, c'est Dorian Linsky.
Voilà, donc voilà. On vous incite à vous procurer ça, vous mettez un bon disque sur votre platine, une bonne bière, et puis vous installez tranquille pour lire ça de Tom. Il y a de quoi passer un bon moment. On continue avec un autre groupe assez surprenant, que je connaissais pas, malgré quand même que... pas mal de choses me rappellent mes amours de jeunesse.
Ouais, mais là, c'est plus récent, c'est peut-être pour ça que tu connais pas. C'est System of a Down, un groupe... Alors là, c'est un album de 2005, hein, donc tu vois, c'est pas si vieux que ça. Groupe qui est né à la fin des années 90, groupe monté par des Arméniens, mais qui habitent aux États-Unis d'Amérique, et qui ont un discours politique dès le début. On se rappelle de Michael Moore, d'un clip qu'il avait fait sur un des disques. On se rappelle de plein de choses comme ça, qui, voilà, d'engagement politique du groupe contre la guerre, contre la drogue, contre plein de choses. Là, il y a un morceau de Violent Pornography, donc effectivement, contre la pornographie et ce que ça peut représenter, véhiculer comme image. Et puis il y a tout le côté sur l'Arménie, puisque comme ils sont arméniens d'origine, ils ont un gros discours pour essayer de faire reconnaître le génocide arménien. On les avait vus en concert en 2015 pour le centenaire de ce triste événement. Ils étaient venus, il y avait un discours militant, il y avait eu, voilà, la communauté arménienne était là pour distribuer des tracts à l'entrée. Voilà, il y a un engagement un peu naturel là, de ce côté-là. Et il y a un engagement contre les États-Unis en général, contre le système américain, bien qu'il soit américain, et contre la guerre, dans plein de morceaux qu'ils ont pu faire. Il y a un engagement aussi pas mal anti-capitaliste, hein, chez System of a Down. J'ai choisi un morceau anti-guerre qui s'appelle, en fait c'est un acronyme, c'est BYOB, je vous le fais pas à l'anglais, ça va être horrible, et ça veut dire Bring Your Own Bombs. Donc ça dénonce un petit peu les guerres, notamment je pense les guerres américaines et les guerres pour le pétrole, là, celle qui est...
Au Moyen-Orient.
Voilà, au Moyen-Orient.
Les guerres des années 90 et 2000.
Voilà, c'est ça. Donc c'est un morceau contre ce genre de choses.
Deuxième morceau anti-guerre, donc comme quoi, ouais. C'est en effet...
C'est vraiment un truc qu'on retrouve pas mal. Ouais.
Une thématique qu'on retrouve. Victorious kneel. Eh ben, rien de tel que ce rythme endiablé à la fin de ce morceau pour faire la transition avec un petit voyage vers le thrash metal.
Ouais, exactement. Donc là, on va retourner dans les années 80, même si on doit être au début des années 90 avec cet album de Megadeth. Alors, le thrash metal, c'est assez classique, qui est un discours social porté par les groupes de thrash metal. Ils sont nés quand même de l'influence de la New Wave of British Heavy Metal anglaise et du punk. Il faut quand même le dire, il y a des influences punk dans le début du thrash.
On se rappelle les phases B des premiers maxi de Metallica, qui étaient souvent des reprises, des Misfits, voilà. ou d'autres groupes punk anglais.
Et donc ça transparaît un peu dans pas mal de groupes de thrash. Alors je vais en passer déjà deux.
Ou tout simplement, on le disait tout à l'heure, sur l'album précédent, celui que tu vas nous passer de Megadeth, la reprise des Sex Pistols.
Oui.
d'Anarchy in the
Ouais, mais bon, c'est un morceau qui est
un grand classique.
Ouais,
voilà.
Ouais. Alors, on va parler de Megadeth. Alors, Megadeth, c'est toujours un peu compliqué. Alors, il y a un discours politique. Megadeth, c'est donc le guitariste solo de Metallica, Dave Mustaine, qui monte ce groupe quand il se fait virer de Metallica parce qu'il
a cause de mauvais caractère.
Il est ingérable, voilà. Il a l'air bien con quand même.
Et un melon, pas possible.
Voilà. Et donc, il monte en réaction son groupe Megadeth. Il va sortir plein d'albums. Ça existe toujours, Megadeth aujourd'hui, il tourne toujours. Et même s'il a été très malade, il a eu un cancer de la gorge.
Avec cette fameuse voix de canard, ouais. Pourtant, qui permet de reconnaître le groupe parmi ouais. tous.
Certainement pas le meilleur chanteur de la scène. Et donc, mais lui, dès le départ, en fait, contrairement à Metallica, où il y a quelques morceaux qui sont un peu politiquement engagés, en tout cas qui dénoncent des choses, comme Master of Puppets, ça dénonce les télévangélistes américains, mais dans Megadeth, tous les morceaux quasiment vont avoir un discours politique. Et donc c'est intéressant, on se rappelle de Peace Sells But Who Is Buying, un morceau encore anti-guerre, du coup j'ai pas passé celui-là au début, je me dis je vais passer celui-là, mais ça faire trop de morceaux anti-guerre. Je trouve un autre thème qui apparaît, qui apparaît beaucoup plus dans la scène métal aujourd'hui, mais qui apparaît de partout, c'est l'écologie. Et on est en 1992, et en fait, le morceau que je passe, c'est le titre éponyme de l'album, la Countdown to Extinction, qui parle de la destruction de la planète, du fait qu'on a, on prend du pétrole partout, on en met partout, on détruit les espèces, et que c'est donc, comme il dit, un compte à rebours vers l'extinction.
En 92, c'était quand même avant-gardiste.
Bah ouais. C'est incroyable quand même, il avait déjà, le discours existait dans la communauté scientifique et dans les militants écolos.
Mais il y a 30 ans, c'était pas quelque chose.
Mais ça sortait pas dans le grand public, et donc Dave Mustaine l'avait mis en avant sur cet album. Donc c'est pour ça que je vous propose. Alors c'est le Megadeth, c'est le cinquième album en fait. C'est le cinquième album et c'est le premier album ultra mélodique, c'est moins un trash brut de décoffrage comme avant.
Shot in cold blood, no chance to fight.
Def.
Ouais, la bande à Dave Mustaine, donc avec ce Countdown to Extinction, donc qui parle d'écologie bien avant l'heure, hein, bien avant que le discours soit à la mode, entre guillemets. Dave Mustaine qui est sensible à pas mal de choses, hein, sur le social, sur la contrôle de, le contrôle des populations, voilà. Alors après, il a un peu vrillé, puisqu'il est devenu chrétien et qu'il n'est pas plus intelligent qu'avant. Et, mais il a gardé ce côté contestataire malgré tout. Il ne met pas du tout la religion dans les textes de ses albums de Megadeth, il met toujours le côté contestation.
On en connaît d'autres, rappelons-nous le chanteur de Wasp.
Oh là là.
Hein, qui lui aussi.
Oui, mais par contre, lui, il parle de Jésus maintenant.
Ouais, lui, il parle de Jésus maintenant. Puis à l'époque, par contre, il n'a jamais parlé d'écologie ou de choses de ce type.
Non, non, mais c'est
mais pareil, il a vrillé de la même façon. Ouais. Quoi. Ils ont été illuminés au sens propre du terme.
Ouais.
On est presque théoriquement à la fin de cette émission. On l'a dit, nos camarades de Bolimix étant pas là, on va faire du rab pour cette 20e édition de la bande-son de nos révoltes. On va déborder un peu. Et puis, néanmoins, au bout d'une heure d'émission, on va quasiment boucler la boucle, puisqu'on a commencé avec Trust, et on va retrouver ceux par qui Trust sont revenus à la fin des années au début
88.
Début des années 90, ouais. Ouais, fin 80, début 90, les Anthrax qui avait relooké Bernie en lui offrant des shorts à fleurs et des bandanas pour une version improbable et magnifique d'Antisocial à l'époque.
Ouais. Oui, on avait même une version en duo entre Anthrax et sur un maxi.
Et chanté en français,
ouais.
Moi aussi. Chanté en français. Antisocial, le refrain est en anglais, mais le chanteur d'Anthrax chantait en Booby Bulga avec Bernie, tout à fait.
C'était marrant. Donc Anthrax, c'est donc autre groupe de la scène trash de la fin des années 80 ou du milieu des années 80. Un des quatre grands groupes du trash metal de cette époque-là. Et j'ai choisi... alors c'est pareil, donc dans Anthrax, il y a aussi un message... pas tout le temps, mais il y a souvent un message un petit peu social. Et il y a un des tubes, c'est certainement d'ailleurs le morceau d'Anthrax le plus connu, qui s'appelle Indians, et qui parle des Native Americans, comme ils disent, donc des Indiens qui étaient là avant l'arrivée des colons européens. Et c'est un sujet qui ressort, ça, quelquefois, dans les paroles de certains groupes de métal. Alors, il y a un groupe de thrash particulier, c'est Testament, le chanteur, son père est indien et sa mère est mexicaine, du coup il a porté le discours, ils avaient fait même une vidéo qui avait été primée à un festival de cinéma pour les Indiens. Voilà, c'est quelque chose qui apparaît, qui est présent, c'est plutôt bien, parce que on dit toujours la scène métal américaine c'est des beaufs blancs, on se dit ils vont être fans de John Wayne, et ben non, il y en a, ils sont plutôt du côté des Indiens.
Donc ou de Clint Eastwood.
Ouais, alors Clint Eastwood, c'est un peu ambigu des fois. Ouais. Maintenant, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau, extrait du 3e album, Among the Living.
Avec la particularité, c'est là où ils avaient lancé le Mosh, qui avait révolutionné un peu, et notamment avec ce morceau Indians dans le clip, cette nouvelle danse qui.
Une sorte de skater en caleçon, là, ou en short. Enfin bon, voilà, qui faisait du trash.
Allez, Anthrax.